16h24, Philippe, il y a certaines études qui nous donnent de l'espoir là, quant à la pandémie, quant à la nature de ce virus. Puis il y en a d'autres qui sont inquiétantes et parfois, c'est dans la même journée.
Oui,
des fois,
ça arrive
souvent. Contradictoire et la question se pose, comment on se retrouve? Comment on peut distinguer le vrai du faux? On va en parler tout de suite avec Nathalie Granvaux, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie, professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Professeur Granvaux, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Vous, en tant que spécialiste, est-ce que des fois vous avez mal à la tête à force de voir les informations contradictoires qui circulent?
Ah, c'est certain. Écoutez, surtout quand ça arrive dans la même journée, c'est un petit peu chaotique. Mais en fait, ça s'explique par le fait qu'en fait, personne a raison et personne a tort. C'est juste des observations et qui sont tout à fait des choses qu'on s'attend. Mais effectivement, je peux comprendre que pour le grand public, c'est plus difficile de démêler tout ça.
Madame Granvaux, dans le New York Times hier, il y avait un article assez percutant où on disait que finalement, la théorie que les enfants peuvent pas vraiment donner le virus ou qu'ils le prennent moins que les adultes, que c'est une théorie là qui commence à avoir un petit peu de plomb dans l'aile, qu'il y a deux études qui ont été réalisées, une à partir de données en Chine et d'autres en Allemagne, et qui démontrent que finalement, c'est peut-être pas le cas. Vous, on en est où là au niveau des enfants? Parce que là, on va rouvrir les écoles, on va rouvrir les garderies, le gouvernement nous dit que les enfants sont moins à risque, mais ça semble pas être l'unanimité. Puis là, on voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a une garderie là, au Québec là, où les enfants auraient été touchés.
Oui. En fait, ce qui a été dit depuis le début, c'est que les enfants sont moins symptomatiques, c'est-à-dire que les enfants, on a très, très peu vu, c'est très anecdotique, d'enfants qui ont eu des symptômes très sévères, comme on le voit chez les personnes âgées. Par contre, on a toujours dit que les enfants étaient potentiellement des vecteurs parce qu'ils pourraient être atteints, mais de manière asymptomatique et donc transférer le virus. Les dernières études qui sont sorties, vous mentionnez en particulier celle de la Chine, démontrent en fait ils ont retracé des enfants qui avaient été en contact avec des patients COVID-19 et ils ont effectivement vu qu'ils étaient positifs. Ils ont tous les tests qui sont positifs, mais ils n'ont pas développé de symptômes. Certains avaient même pas de toux, même pas de rhume, seraient passés complètement inaperçus si on n'avait pas juste essayé par traçabilité d'évaluer s'ils avaient été infectés ou pas. Donc, les enfants peuvent être infectés, c'est juste qu'ils sont moins à risque d'avoir une pathologie sévère.
Mais ils peuvent transmettre le virus.
On n'a pas de données exactes là-dessus. Ça, c'est la donnée qui nous manque et qu'il faudrait absolument qu'on obtienne prochainement. Là, il y a des données contradictoires. On a aussi en Australie où ils disent, ou en Suisse en tout cas, qui disaient que les enfants peuvent retourner voir leurs grands-parents parce qu'ils transmettent pas. Mais ils se basent sur rien pour dire ça. Il nous faut des études solides qui démontrent si les enfants qui ont été infectés, même s'ils sont pas à risque tant que ça, est-ce qu'ils ont le potentiel de transmettre? Puis ça, c'est le chaînon manquant, je dirais. C'est celui-là qu'il faut élucider pour être certain de prendre les bonnes décisions.
Professeur Granvaux, écoutez, vous êtes président de l'Association canadienne de virologie. Oui. Là, on est en plein en cette période de pandémie dans votre sujet d'étude. On entend souvent ça, OK? Ah, il y a une nouvelle publication, il y a une nouvelle recherche, il y a une nouvelle étude qui est sortie. C'est quoi le pourcentage qui est fiable dans le sens où ça a été publié et ça a été révisé par des pairs selon un processus scientifique rigoureux?
Mais écoutez, en ce moment, je vous dirais que vu l'urgence et vu la volonté de partage des informations de la communauté scientifique, il y a énormément, je pense qu'on est, j'ai pas les chiffres exacts, mais on est largement au-dessus de 50% des études qui sortent avant qu'elles aient été révisées par les pairs. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous en tant que chercheurs parce qu'on a accès à des données rapidement qu'on est capable d'analyser et de se dire est-ce que nous, on va dans la même direction dans nos recherches? Est-ce qu'on doit réorienter les choses en fonction de ça? Mais c'est sûr qu'on peut pas prendre ces résultats-là comme des résultats définitifs. Ils doivent être évalués, ils doivent être reproduits par d'autres équipes. Donc, il faut faire très attention à l'interprétation qu'on en fait. Et effectivement, c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Ça fait accélérer la recherche, mais ça laisse libre cours à beaucoup d'interprétations qui ne devraient pas être faites en ce moment.
Qu'est-ce qui vous met automatiquement sur vos gardes quand vous entendez parler d'une nouvelle qui concerne, par exemple, un vaccin ou un nouveau médicament?
Mais écoutez, ce qu'il faut, c'est analyser les données. Est-ce qu'il y a des données qui ont été faites de manière contrôlée qui permettent de soutenir les conclusions qui sont dans l'article? Comme par exemple, on l'a vu au tout début, je vous ramène sur le cas de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, oui, qui était proposée par Dr Raoult en France. Les études qu'il a faites, il n'y avait pas de contrôle d'études. Donc, le protocole expérimental ne nous permet pas, nous, comme scientifiques, de dire la conclusion est valable. Donc, pour ça, pour moi, c'est comme si l'article n'existait pas. Puis, on est capable de trier avec ça. Il faut faire, faut être très prudent. Il faut avoir des données solides qui gardent la rigueur scientifique qu'on a d'habitude. Mmh. Et il ne faut pas perdre ça en ce moment. C'est plus que jamais important.
Bon, il y a un autre, vous parliez de la chloroquine, il y a un autre médicament là, qui a été homologué aux États-Unis en urgence, le Remdesivir. Mmh. Vous, est-ce que les études qui ont été déposées jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous convainc que cette autorisation-là de l'utiliser en urgence est une bonne décision?
Non, parce qu'il n'y a pas de données claires qui démontrent vraiment de manière contrôlée l'intérêt pour le patient. Il y a des données préliminaires qui sont encourageantes, parce que ça, il faut le dire quand même, c'est encourageant, mais il reste des données plus solides à avoir pour avoir une conclusion définitive. Après, dans le domaine du médicament, il y a aussi qu'on est dans une période d'urgence, puis on veut absolument aider les patients à qui, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à donner. Et donc, s'il y a un petit encouragement, mais que les données sont solides par rapport au fait que l'utilisation du médicament est sécuritaire, puis je connais pas les détails pour ça, pour le Remdesivir, mais il me semble que ça avait été déjà fait, l'innocuité, le fait de pas induire de risques supplémentaire pour le patient, on a cette utilisation compassionnelle, je ne sais pas si c'est le mot exact en français, mais qui peut être utilisée parce qu'on se dit que comme on ne fait pas prendre plus de risques au patient, dans le pire des cas, ça ne va pas l'aider, mais si ça peut l'aider un peu, tant mieux. C'est qu'on peut faire ça. C'est que de là à dire que ça devient un médicament utilisé de manière standard, c'est pas... Il y a une marche à monter pour pouvoir dire ça.
Professeur Granvaux, vous êtes une spécialiste des virus. Ce virus-là, qu'est-ce qui fait qu'il est si, disons, difficile à combattre si on le compare à d'autres virus?
Ben écoutez, pour la comparaison qui est la plus facile à faire, c'est le SARS de 2003. Quand on a eu l'épidémie de SARS, tous les patients qui avaient été infectés développent des symptômes sévères. Donc, c'est très facile de savoir qui est infecté ou pas, puis on isole les gens tout de suite. Le SARS-CoV-2 qui circule en ce moment, il a tellement de visages. Il est asymptomatique chez certaines personnes, il est asymptomatique modéré chez d'autres, puis il est très symptomatique chez d'autres. C'est qu'on n'est pas capable de le suivre, on n'est pas capable de savoir qui on doit isoler. Et c'est ça qui rend les choses très compliquées dans la traçabilité, en fait. Et donc, c'est tous les systèmes qu'on a mis en place jusqu'à maintenant sont mis en place pour des virus, c'est pareil pour l'Ebola, dans lesquels les symptômes sont tellement marqués qu'on sait clairement identifier les patients infectés. Et on est perdu en ce moment par rapport au fait qu'il y a des asymptomatiques beaucoup.
Quand pensez-vous qu'on va sortir un peu la tête de l'eau, là, vous, les chercheurs notamment, là, que vous allez pouvoir avoir un peu plus de certitude?
Écoutez, j'aimerais vous dire bientôt. Je suis la première à vouloir que... je pense que ce qui est encourageant, ce n'est pas tellement les solutions, c'est de voir que, par exemple, en Europe, en Chine, la situation, c'est on voit que la courbe est en bas, puis que l'épidémie a l'air assez maîtrisée. En Europe, les courbes descendent beaucoup. En Italie, ça descend. En France, ça descend. Donc nous, au début, on était décalé de 3 semaines par rapport à l'Europe. Donc on est en haut du plateau parce qu'on est 3 semaines en retard. Et j'ose espérer qu'on suit la même courbe que eux et que d'ici 2 semaines, on va commencer à avoir une baisse ici aussi.
Professeur Granvaux, vous connaissez intimement les virus. Écoutez, tout le monde fait attention, tout le monde garde la distance. Il y a des discussions pour que le masque soit obligatoire, par exemple. Écoutez, pourriez-vous nous dire la façon la plus répandue d'attraper le coronavirus, c'est quoi?
La façon la plus répandue, c'est de se retrouver en contact avec une personne infectée. Et les études, quand on regarde un petit peu, suggèrent quand même beaucoup, c'est qu'il faut être dans un endroit fermé avec une personne, c'est-à-dire dans la rue, à moins de 2 mètres, pas avoir les gouttelettes, on a peu de chances d'être contaminé. Donc, être en contact avec une personne contaminée, surtout le contact par des gouttelettes qui se déposeraient sur vos mains, puis que vous contaminez par votre bouche. On disait au début, pas toucher le visage, pas amener les mains à la bouche, se laver les mains, ça reste les directives qui permettent d'éviter de se contaminer quand même beaucoup. Puis on le voit dans ce qui se passe malheureusement dans les CHSLD, c'est des gens qui sont dans un milieu fermé avec des gens qui circulent en contact parce que les gens qui sont aux premières lignes de soins sont en contact avec les patients. Puis là, ben, ça se transmet d'un patient à l'autre parce que ça va trop vite. Puis on est en urgence en ce moment. On a débordé par rapport aux pratiques essentielles. Mais c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment d'être en contact avec les gouttelettes et d'être à proximité d'une personne qui est infectée.
Donc, si je résume, les grandes chances de l'attraper, c'est si je suis un soignant et si je suis dans un 5 à 7 et qu'on partage tous la même bulle.
Mm-hmm, tout à fait.
Mais si je suis à l'épicerie, et que je croise quelqu'un à 1,50 m plutôt que 2 mètres, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se contamine.
Ben écoutez, c'est sûr qu'on peut discuter du 2 mètres à 1,50 m, mais le 2 mètres, c'est la zone de sécurité pour s'assurer que tout le monde est à une distance raisonnable. Mais il faut faire attention de ne pas se rassembler dans un endroit fermé, puis même dehors, d'être proche des autres pendant un temps. C'est un peu ça qu'il y a derrière l'idée de pas de rassemblement. C'est-à-dire qu'on peut être dehors avec quelqu'un, mais si on passe 3 heures avec une personne contaminée, même si on est dehors puis qu'on se rassemble à moins de 2 mètres, on a un risque de se contaminer aussi.
Très intéressant. Merci beaucoup, professeur Granvaux.
Je vous remercie. Passez une bonne après-midi.
Nathalie Granvaux, présidente de l'Association canadienne de virologie. Il est 15h36 et Catherine Beauchamp s'en vient.